Pensais que j'avais fort sur le cœur hier soir. Et en introduction, on va lire deux textes. Deux textes qui, je pense, pourrait dire qu'ils résument la prédication. Deux textes courts qui vont bien décrire ce qu'on va aborder cet après-midi. Le premier des textes se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un petit livre après les psaumes et les proverbes. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, il est écrit une vérité qui révèle vraiment ce qu'est l'être humain. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché bien des subtilités. Ça, c'est ma version. La version que vous avez, laquelle je m'étais basé à l'origine, dit ceci. « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Beaucoup de détours. Un détour, c'est quoi? C'est quand on va d'un endroit à un autre et qu'on marche plus longtemps que prévu. Deuxième texte, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. C'est une parole qu'on cite très souvent. Jésus parle et il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, j'aimerais poser une petite question. Si vous croisiez quelqu'un qui tournait en rond, vous vous rendez compte que la personne, ça fait 10 fois que vous la croisez, et puis elle tourne en rond comme ça. Qu'est-ce que vous allez penser de cette personne ? J'y ai réfléchi, moi je vois deux sorties possibles. Soit la personne elle s'est perdue, je suis dans un quartier, elle tourne en rond, elle cherche quelque chose, elle ne trouve pas, elle s'est perdue. Ou soit, disons-le, la personne elle est folle. Il faut le dire, à un moment donné, quand on tourne en rond, sans raison, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Pourquoi tourner en rond ? Pourquoi on emprunte un chemin? En général, quand on emprunte un chemin, c'est parce qu'on veut se rendre d'un point A à un point B. On est d'accord? Ce qui fait qu'on va se déplacer, c'est parce que de l'autre côté, à l'endroit où nous voulons nous rendre, il y a un but qui est poursuivi, sinon on ne se déplace pas. On n'a pas besoin de se déplacer. Mais quand on se met à marcher pour aller nulle part, oui, on peut se promener, etc. C'est peut-être le but du déplacement, d'accord. Mais réfléchissons d'une manière simple. Si j'engage un trajet pour rien, c'est bizarre. On ne se déplace pas pour rien. On se déplace pour une raison précise. Si le but de mon déplacement, c'est d'aller me balader, d'accord. Mais il y a quand même un but. Je ne me déplace pas pour rien. Et ici, les deux versets que j'ai cités nous montrent une vérité très importante. C'est que dans le domaine spirituel, il existe un chemin qui mène à Dieu. On l'a lu. Jean 14, 6, « Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. » Autrement dit, il y a un chemin qui existe, qui mène à Dieu, et ce chemin, il est direct. Si on veut aller à Dieu, il y a un chemin qu'il faut suivre, qu'il faut emprunter. La Bible nous dit que malgré ce chemin, les hommes ont cherché beaucoup de détours. Et On va voir l'exemple, une situation où le chemin était court et finalement, on va voir une situation où les personnes qui devaient avoir un trajet court se sont retrouvées à tourner en rond, littéralement. Ils ont tourné en rond. Alors on va lire quelques versets. C'est l'exemple du pays d'Israël, du peuple d'Israël. Et on va le lire dans le Deutéronome. Deutéronome, c'est le cinquième livre de la Bible. On va lire les trois versets les plus longs de la parole, en termes de temps. Non, je plaisante, mais c'est vrai que là, il y a trois versets qu'on va lire. Et dans ces trois versets, il y a beaucoup de temps qui se passe. Deutéronome chapitre 2, et on va lire les trois premiers versets. C'est Moïse qui écrit, hein, qui parle au peuple. Il leur résume un peu la situation avant d'entrer dans la terre promise. Des fois, ça fait du bien de se rappeler, hein, le chemin parcouru. C'est ce que fait Moïse à cet endroit-là. Nous nous sommes tournés et nous sommes partis pour le désert, par le chemin de la mer des joncs, comme l'Éternel me l'avait dit. Nous avons contourné bien des jours la montagne de Séir. Verset 2, juste pour ça, l'Éternel me dit. Il y a quelque chose qui s'est passé. Verset 3, vous avez assez contourné cette montagne, tournez-vous vers le nord. Vous savez combien de temps a duré cette affaire, hein, ces trois versets ? 38 ans. Le 38, là, il nous parle bien, parce qu'on a aussi un exemple dans le Nouveau Testament de quelqu'un qui était bien malade pendant 38 ans. 38 qui nous rappelle le péché et l'errance. Je ne dis pas que tous les 38 que vous verrez dans la parole, c'est ça que ça veut dire, mais là, il y a deux cas de figure où dans ce nombre-là, il y a une situation d'errance. Le peuple se retrouve à errer, à vagabonder dans le désert, à tourner en rond pendant 38 ans. Est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu que nous tournions en rond ? Bien sûr que non. Et ce n'était pas la volonté de Dieu que le peuple d'Israël tourne en rond. Le chemin qu'il devait parcourir, normalement, il durait 11 jours à pied. 11 jours, c'est pas long 11 jours. Et pourtant, ils ont marché 38 ans. 38 ans, ils ont fait le tour d'une montagne pendant 38 ans. Ils ont tourné en rond, comme un lion dans sa cage. Mais il est important peut-être de regarder pourquoi c'est arrivé. Alors on va tourner une page en avant. Deutéronome, chapitre 1er, verset 20, on va lire jusqu'au verset 27. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu a mis le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Sois sans crainte et sans effroi. Vous, vous êtes tous approchés de moi pour me dire, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Là, je m'arrête. Est-ce que c'était le souci du peuple de savoir comment faire une fois arrivé là-bas ? Est-ce que c'était leur souci de se dire comment on va les envahir ? Est-ce que le pays est bon ou pas ? Non, c'était pas leur problème, ça. Celui-là, ce problème, c'était celui du Seigneur. Là, on apprend quelque chose de très important, c'est que cette histoire des 12 espions qui sont envoyés, même si ailleurs on voit que c'est l'Éternel qui dit à Moïse de les envoyer, l'initiative, la première initiative, c'est le peuple. C'est le peuple qui ne croyait pas. C'est le peuple qui se disait, tiens, ça serait bien si... Mais il n'imaginait pas Dieu agir avec force. Pourtant, ils l'avaient vu, les sortir du pays d'Égypte, avec gloire. Ils sont sortis quand même d'une sacrée manière de ce pays. Dieu s'est manifesté, il a manifesté toute sa puissance, toute sa gloire. Ils ont vu ces choses. Et pourtant, ils s'enquiquinent à vouloir envoyer des espions commencer là-bas pour voir si le combat va être dur ou pas, savoir si c'était pas leur affaire. Alors pourquoi Dieu a dit à Moïse, vas-y, envoie-les? Mais parce que ils étaient obstinés. Alors des fois, avec les parents et les enfants, c'est comme ça que ça se passe. Les enfants, ils insistent tellement, mais à la fin, les parents disent, bon, vas-y, fais-le, mais tu vas voir que tu vas pas réussir, tu vas voir que ça va mal se passer. Mais des fois, on lui dit, vas-y. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Dieu a donné son approbation, mais au fond de son cœur, il n'était pas d'accord avec cette affaire. Faut-il rappeler que devant le peuple d'Israël, il y avait la nuée qui était devant eux. Elle montrait le chemin. Elle montrait le chemin. On va le lire tout à l'heure. Mais on va le lire, on va continuer la lecture. J'étais au verset 21, je crois. Verset 23. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils avancèrent, montèrent vers la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol qu'ils inspectèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent « C'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. » Évidemment, Dieu ne mentait pas. Quand il avait promis un bon pays, c'était un bon pays. Il n'y avait même pas à en douter. « Mais vous n'avez pas voulu y monter et vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. » Vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit « C'est parce que l'Éternel a de la haine pour nous qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. » Le peuple envoie des espions parce qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est terrible quand même quand on imagine tout ce qu'ils ont vécu. Ils restent incrédules. Et ce qui est terrible, c'est que ça les amène dans des réflexions qui sont mauvaises. Ils commencent à croire que Dieu leur veut du mal. Ils commencent à croire que Dieu ne serait pas capable de les délivrer. Et au final, il y a un grand murmure qui est là. Un murmure, c'est pas très fort, mais c'est suffisamment fort pour que Dieu l'entende. Et ça va leur coûter cher. Regardez le verset 29, on va lire jusqu'au verset 33. Regardez Dieu, comment lui, il réagit à cette situation. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et ne les craignez pas. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, tout comme il l'a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, sur tout le chemin où vous avez marché jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Dans cette circonstance, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel votre Dieu qui allait devant vous sur le chemin pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. Il y avait un chemin qui était tracé. La nuée, je pourrais dire, marchait devant le peuple. Dieu marchait lui-même devant le peuple. Il ouvrait le chemin. Et le peuple, lui, au lieu de faire confiance, moi, je ne sais pas, j'aurais vu la nuée devant moi, je me serais dit, c'est bon, tant qu'elle est là, on est tranquille. Mais non. Le peuple s'est quand même posé des questions. Il a voulu envoyer des espions, etc. Dieu lui-même ouvrait le chemin. Il n'avait qu'à suivre. Mais la rébellion du cœur fait qu'on cherche des détours. Et ces détours nous amènent à tourner en rond. Ce qui est imagé dans cette affaire, c'est le péché. C'est le péché à partir du moment où on ne veut pas considérer Dieu. À partir du moment où on se dit que Dieu ne pourrait pas intervenir, Dieu ne pourrait pas agir. On essaye de s'y prendre à sa manière. On se dit, mais moi, de ma vie, de toute manière, je fais ce que je veux. Je prends la direction que je choisis. Dieu, pourtant, nous a montré le chemin qui menait à lui. Et si l'homme a été créé, c'est peut-être parce que l'homme est appelé, dès sa création, à vivre auprès de Dieu. C'est pour ça que l'homme a été créé. C'est pas pour errer, tourner en rond, pendant notre vie. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, ce que vous traversez dans votre vie. Est-ce que peut-être vous vivez cette impression de se dire, mais à quoi sert la vie ? Je fais ça, je fais ça, je fais ça, et puis après, qu'est-ce que ça va être ? Il y a quelqu'un qui s'est posé la question, d'ailleurs. On a lu l'Ecclésiaste tout à l'heure, mais cet homme-là, il s'est appliqué toute sa vie à faire des projets, à bâtir des choses, à faire des choses grandioses, à amasser des biens. Il a eu une réputation sans précédent, une gloire sans précédent. Et pourtant, quand il arrive, il a réussi à accomplir toute sa foule de projets. Il en arrive à se dire, mais à quoi ça sert finalement ? C'est un autre qui va en profiter, parce que moi je vais partir. On peut être, alors que nous sommes jeunes, en train de se dire, oui, je vais faire ça dans ma vie, je vais faire ça dans ma vie. On peut avoir de l'ambition, et c'est bien d'avoir de l'ambition, mais à un moment donné, quand on s'arrête sur les choses et qu'on commence à réfléchir 2 minutes, on se dit, mais ça m'amène où tout ça ? Je vais travailler ma vie durant, la tête dans le guidon, comme on dit, et ma vie de famille, ça passera après. Je vais essayer de faire comme je peux pour avoir une bonne position pour mon travail. Et au final, on s'aperçoit que les années passent. On n'a pas vu grandir les enfants, on n'a pas pu apprécier la vie de famille. Pourquoi ? Parce qu'on était pris dans quelque chose. Et quand on réalise le point où nous en sommes, on se dit, mais à quoi ça a servi toutes ces années ? À quoi ça a servi ? J'ai tourné en rond pendant des années, alors qu'il y avait un chemin. Il y a un chemin qui est tout tracé, qui peut mener à Dieu. Oui, on peut être amené à se réjouir dans notre vie, mais celui qui suit ce chemin-là, il apprend à considérer toutes les bontés qu'il peut obtenir dans sa vie, tout sujet de réjouissance comme venant de Dieu. Et là, on profite vraiment de ce que Dieu met à notre disposition, de ce que Dieu met à notre portée. Au lieu de vouloir sans cesse amasser, passer notre vie à amasser, une fois que tu amasses tout, quand ta vie t'en est redemandée, tout ce que tu as amassé, à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. Tu peux t'entraîner dans ta vie à t'entraîner à obtenir telle ou telle compétence. Et c'est vrai, on peut s'améliorer dans la musique, dans j'en sais rien, des tas de domaines. On devient expert dans certains sujets, mais à la fin, quand on maîtrise la chose, et puis que finalement que notre vie nous est redemandée, à quoi ça sert ? On va se dire, ouais, mais si on raisonne comme ça, ça ne sert plus à rien de vivre. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut réfléchir sur la priorité des choses. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible dit aussi que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On a tous, un jour, été confrontés à ces questions. L'éternité. Qu'est-ce qu'il se passe ? Après la mort ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Et ces questions-là, c'est Dieu qui nous les a données. C'est la Bible qui le dit. Il a placé. Et ces réflexions-là, elles viennent de Dieu. Pourquoi ? C'est des réflexions qui parlent, qui évoquent une dimension divine, l'éternité. Ça parle de quelque chose de divin, ça, l'éternité. Pourquoi l'homme y pense alors qu'il sait pertinemment qu'un jour il va mourir ? Mais parce que c'est Dieu qui l'a implanté en nous, cette idée. Et il veut qu'on y réfléchisse. Pourquoi ? Parce qu'en y réfléchissant, on va se rapprocher de lui. Et on va pouvoir découvrir un chemin qu'il a tout tracé pour nous. Quand on voit quelqu'un qui tourne en rond, on dit qu'il est perdu. Et l'homme, dans son péché, il est errant, il est perdu. Et s'il reste dans cette situation, eh bien, un jour viendra où il devra passer en jugement, parce qu'il n'aura pas emprunté le chemin qui menait à Dieu. Nous sommes nés pour aller vers lui. Celui qui ne prend pas la peine de vouloir aller vers lui, eh bien, pour l'éternité, il ne sera pas avec lui. Ce qui correspond à notre désir, quelque part, de ne pas vouloir nous inquiéter de Dieu. Eh bien, ça provoquera tout simplement le fait que pour l'éternité, on sera séparés loin de lui, mais nous saurons que nous récolterons simplement ce que nous avons semé. Celui qui s'intéresse à Dieu, celui qui essaye de savoir qui est Dieu, celui qui essaye d'apprendre à le connaître, celui qui essaye de savoir où est le chemin qui mène à lui, eh bien celui-là qui emprunte ce chemin, Dieu le voit. Et Dieu lui fera grâce pour l'éternité de l'amener auprès de lui. Celui qui ne se soucie pas de Dieu, il sera victime de son propre choix. Mais c'est de notre vivant qu'il nous faut choisir ou non de tourner en rond ou de suivre le chemin. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 6, il est écrit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » L'errance, c'est ça aussi. Dans ce monde, on a un monde autour de nous qui est complètement errant. Il ne connaît plus sa droite de sa gauche. Il ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Il ne sait plus quoi faire. On fait des lois, on légifère sur tout. Et finalement, tout devient philosophie quelque part parce qu'on n'a plus de notion de bien, de mal. On ne sait plus ce que c'est que la famille. Tout ce que Dieu a institué aujourd'hui, c'est le brouillard le plus total. Écran de fumée. On ne sait plus où sont les choses. On ne sait plus où sont les valeurs. Et comme on ne sait plus où sont les choses, comme on ne sait plus où est le chemin, eh bien on tourne en rond, on est perdu. Dieu est venu en personne. Il s'est mis à notre portée. En la personne de Jésus-Christ, pour nous réouvrir un chemin qui était déjà tracé. Et c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin ». Jésus, il est venu sur la terre, à l'inverse des hommes, à l'inverse de ce peuple d'Israël qui va faire des détours, lui, il est venu pour une raison bien précise, pour une mission très claire, qu'il a accomplie en temps et en heure, sans déborder. Il ne pouvait pas la faire plus vite, sa mission. Il l'a fait en 33 ans. Selon ce qui est écrit dans la parole, ça ne pouvait pas se passer plus vite. Ce n'est pas possible. Jésus était venu d'une manière très précise, pour une raison précise. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est venu nous chercher, nous qui sommes dans l'errance, nous qui tournons en rond. Il est venu nous aider à nous remettre sur le chemin, surtout nous, qui avons cette conscience de s'être perdus. Parce qu'il y en a qui tournent en rond, ils ne s'en rendent même pas compte. En voiture, je pourrais en faire partie. Mais il y en a qui tournent en rond, mais qui s'en rendent compte. Et qui sont bien malheureux d'être dans cette situation. Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ chercher et sauver ces personnes. Ces personnes qui constatent qu'elles ont un problème. Comment Jésus-Christ est venu ? Si on peut faire une petite analogie avec le combat, parce que sa venue, c'est un combat quelque part. Je dirais qu'il s'est infiltré parmi les hommes. Il s'est tellement bien infiltré que personne ne l'a reconnu. On a été à son contact, personne n'a reconnu Dieu vivant parmi les hommes. Il était là, il était avec les hommes. Dieu a quitté toute sa gloire. Et il a pris nos vêtements. Il a pris notre corps. Il est devenu semblable à nous. Ce qui ne change en rien son identité. Quelqu'un qui s'infiltre chez l'ennemi, entre guillemets, il garde son identité de l'armée à laquelle il appartient. Jésus s'est infiltré parmi nous. Il s'est fait homme, il s'est incarné. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il prenne notre condition. Il fallait qu'il soit comme nous, pour que ce qui nous amène à faire des détours soit détruit. Jésus s'est mis à notre portée. Jésus s'est mis dans une situation alors que plus rien ne lui appartenait, alors que tout a été créé par lui et pour lui. Ce qui veut donc dire que il en est le plein propriétaire. Et pourtant, quand il est venu sur la terre, il n'avait même pas un endroit pour reposer sa tête. C'est la Bible qui le dit. Jésus s'est mis à notre portée parce qu'il est venu te chercher, te tirer de là, te ramener sur un chemin qui va t'amener à Dieu, qui va t'amener à la joie, comme on l'a chanté, à une paix que tu ne pourras connaître que sur ce chemin-là. Alors que les hommes et les femmes ont l'esprit tourné sur eux-mêmes, Jésus est venu. Pas pour son intérêt personnel, mais il est venu pour nous. Et en cela, même sa venue est un don déjà. Avant même qu'il meure sur la croix, sa venue était un don. Et tout son temps, il l'a donné. Toute sa vie, il l'a donné. Jésus, quand il est venu sur la terre, il nous a aussi tout annoncé, parce qu'il est le chemin. Il nous a expliqué que dans le monde céleste, il y a des êtres qui existent. Il nous a dit qu'il y a une réalité que nous ne voyons pas, qui est ce monde céleste. Il nous a annoncé que... Il nous a dit tout ce qui allait se passer sur ce monde terrestre. Ce monde terrestre est appelé à périr. Et ceux qui s'attacheront à ce monde terrestre, ben, ils périront avec, il n'y a pas le choix. Parce que tu seras attaché, tu périras. Si tu es attaché à ce monde qui doit périr, ben, si tu restes attaché, tu vas périr avec, tout simplement. Par contre, si tu t'attaches à cette réalité d'en haut, là tu seras sauvé. Jésus, il est venu nous annoncer la possibilité de nous retrouver au ciel avec lui. Il est venu pour nous dire comment faire pour y aller. Il nous a même annoncé quelques pièges à éviter sur le chemin. J'ai fait une rapide allusion, regardez l'égoïsme. Quand on parle de l'égoïsme, c'est ce qui nous amène à chercher beaucoup de détours, parce qu'on ne s'inquiète pas du groupe, on ne s'inquiète pas des autres, on s'inquiète de notre cas personnel. Et on cherche toujours notre propre intérêt. C'est la société du moi d'abord. La société du moi d'abord. Avec le moi d'abord, eh bien, on n'avance pas. Avec le moi d'abord, je me rends malheureux, parce que je me rends compte que moi d'abord, ça ne me sert à rien. Et en plus, je rends malheureux les autres. À l'inverse, quand je commence à profiter de la présence de personnes qui me sont chères et à qui je suis cher aussi, eh bien, il y a des choses qui se créent les uns avec les autres. Et c'est ainsi qu'on apprend à avoir un regard différent sur les autres. Et c'est ainsi qu'on apprend à vérifier que le bonheur que Dieu veut nous donner, il existe au travers les uns, au travers les autres, et que l'égoïsme, il ne mène à rien. Jésus, il est venu nous montrer le chemin. Le chemin, c'est quoi? Le chemin, c'est celui qui l'a amené jusqu'à la croix. Jésus a quitté son ciel de gloire. Il était Dieu. Il est venu sur la terre. Il était Dieu toujours, mais il était incarné. Et il s'est donné sur la croix. Il a tout quitté. Il a quitté tout ce qui faisait sa gloire pour revêtir sur lui tout ce qui faisait notre honte. Tout le péché qu'il y a en nous, l'égoïsme qu'il y a en nous. Ce matin, Michael a abordé la situation où Jésus s'est revêtu d'un autre habit pour laver les pieds des disciples. Il y a quelque chose de très facile à comprendre, c'est que quand il a commencé à laver un pied, un deuxième pied, un troisième pied, il y avait 24 pieds à nettoyer, vous avez imaginé l'allure du vêtement. Ils n'étaient pas en chaussures comme nous, hein. Ils étaient en sandales. Ils avaient les pieds bien sales. Il a pris la saleté. Il a pris ma saleté. Il a pris ta saleté. Cette saleté-là, c'est le péché. Il l'a pris sur lui. Et il s'en est revêtu. Il s'en est revêtu. Et c'est ainsi qu'il allait sur la croix. Il est mort sur la croix. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Le péché, il est attaché à mon corps physique. Et le Seigneur Jésus, il a incarné un corps comme le nôtre. Et avec sa mort physique à la croix, le péché a été détruit. Il a été détruit. Le vêtement sale, il a été déchiré. C'est un don d'une grande valeur. Il l'a fait pour nous. Il a pris notre péché à tous. Et il l'a détruit sur la croix du calvaire. C'est là tout la symbolique. Seulement, ce passage que je viens de lire fait mention d'un acte qui liste le moindre de nos manquements à une loi. Celui qui croit que cet acte a été effacé, alors il lui sera fait selon sa foi. Celui qui n'y croit pas, eh bien cet acte-là, il demeure. Et tous tes manquements, le moindre de tes égarements est écrit. Il suffit de croire que Jésus-Christ a effacé cet acte. Et celui qui y croit, l'acte ne peut plus rien contre lui. Parce que Jésus a détruit le péché. Simplement, il faut y croire. Il faut croire que cet acte-là a été effacé. Et il faut s'approcher de Dieu, parce que si Dieu lui-même s'est incarné pour aller jusque sur la croix mourir, c'était parce qu'il nous aime, bien sûr. Mais c'est parce que le péché est justifié par la mort. Il fallait que quelqu'un meure. Il fallait que le sang soit répandu. Et Jésus est venu pour tout ça pour nous. Parce qu'il aime, il nous aime. Et il te faut t'approcher de lui, conscient de tout ce qu'il a fait pour toi. Il est venu, il est mort, il s'est infiltré parmi nous, mais le péché est allé jusqu'à le faire mourir. Mais en mourant et en ressuscitant, il a ouvert un chemin. Il a ouvert un chemin que nous pouvons suivre désormais. La Bible dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Il suffit de croire dans ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, pour nous, pour toi, pour que tu puisses emprunter ce chemin qui mène à Dieu. J'aimerais partager une dernière pensée au sujet du chemin, parce que derrière tout ce que Jésus a fait, c'est l'ouverture d'un chemin sur lequel nous sommes amenés à marcher. Et un peu, on peut prendre cette image de la nuée qui nous précède. Jésus nous a précédés sur un chemin qui mène au Père. Je vais vous poser une question. Vous savez ce qui se passe quand un chemin n'est pas emprunté? Il s'efface. Il disparaît. Et il y a une vérité très profonde derrière cette image. Jésus a ouvert un chemin pour que nous y marchions. Et quand je marche sur le chemin, j'entretiens le chemin. Ce qui fait que le chemin, il reste visible pour les autres. Non seulement le chemin se retrouve ainsi bien délimité, parce que tous ceux qui m'ont précédé ont fait en sorte que ce chemin soit praticable, il est bien délimité, en prenant exemple sur ceux qui m'ont précédé, ceux qui marchent devant moi. Le chemin est là, bien délimité, mais si personne n'emprunte le chemin va disparaître. Et faute de chemin, les hommes recommenceront à faire beaucoup de détours, parce qu'ils ne verront plus le chemin. Jésus a ouvert un chemin, et nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous réalisons la grande responsabilité qu'est la nôtre que de marcher sur le chemin? Jésus a ouvert un chemin, pas pour qu'on reste devant, mais pour marcher dessus. Le Seigneur nous appelle à marcher sur ce chemin. Et marcher sur ce chemin, je ne vais pas refaire la prédication que Michael a faite ce matin. Jésus nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Marcher sur ce chemin. Il y a une grande utilité quand moi je marche sur le chemin pour moi, mais surtout pour les autres, que ce soit mes frères en Christ, mes frères et sœurs en Christ, mais que ce soit pour ceux qui sont autour de moi, parce qu'ils voient bien que je ne marche pas sur le même chemin qu'eux. Si je ne marche pas sur le chemin, il va s'effacer. Bon, ce que Jésus a dit reste vrai. Le chemin est toujours existant, bien sûr, mais il y a une image qu'il nous faut bien comprendre. Le témoignage de chacun est grandement utile pour tous ceux qui nous entourent. Il nous faut marcher sur le chemin et il ne nous faut pas faire en sorte que le chemin disparaisse. Frères et sœurs, nous qui sommes assemblés dans l'Église, il nous faut faire attention à ça. Quand quelqu'un vient pour la première fois, il faut qu'il distingue quelque chose. Il faut qu'il se rende compte de quelque chose, qu'il existe un chemin et eux-mêmes ne sont pas dessus. Mais si personne n'y marche, le chemin il va disparaître. Et les gens viendront, mais ils ne sauront pas non plus discerner leur droite de leur gauche. Que le Seigneur nous aide. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. J'aimerais juste qu'on prenne le temps de réfléchir. Je ne sais pas si dans ta vie, tu expérimentes ce qu'on a vu cet après-midi. Tu te dis, ma vie, c'est toujours la même chose. Chaque semaine, elle recommence. Et je ne suis pas heureux. Je n'ai pas la paix. Quand je m'endors, j'ai les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes, les mêmes angoisses. Quand je regarde ce qui se passe en France, je suis plus que découragé. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va être la vie demain ? Je me pose tout un tas de questions. Et à travers toutes ces questions, tous ces raisonnements, finalement, je tourne en rond. J'aimerais te dire qu'il y a un vrai chemin que tu peux emprunter. Parce que celui qui suit le Seigneur, il ne s'inquiète pas de tout ça. Il ne s'inquiète pas de ce que sera sa vie. Il ne s'inquiète pas de l'actualité. Il ne s'inquiète pas de ce qu'il aura demain, parce qu'il sait que Dieu pourvoit lui-même à ses propres besoins. Comme le peuple d'Israël qui errait, Dieu a pourvu néanmoins dans cette période. Et le chrétien, il a cette assurance. Et des tas de questions qui te pèsent et qui font que finalement tu n'apprécies pas ta vie, eh bien, tout peut changer si tu choisis dès à présent de faire la paix avec Dieu. Le chemin est ouvert. Jésus est venu sur la terre te montrer le chemin pour que tu puisses l'emprunter toi aussi. Le Seigneur est venu te dire cet après-midi encore qu'il est mort sur la croix pour toi parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu puisses être sauvé. Est-ce que tu sais dire cet après-midi si ta vie doit être reprise, où vas-tu la passer ? As-tu choisi ce monde terrestre qui va périr et tu périras avec? Excusez-moi, c'est peut-être cru comme manière de le dire, mais au moins on comprend. Ou est-ce que tu as fait le choix de marcher sur le chemin qui mène à Dieu? Et là, la réalité dans l'éternité est toute différente. Réfléchis à ces choses. Le Seigneur t'appelle et il t'appelle surtout à faire une démarche de cœur. Approche-toi de lui, de tout ton cœur. Je ne vais pas demander à ce qu'on s'avance, mais que ce soit l'occasion pour vous de faire devant Dieu une simple prière, de faire « Où est-ce que vous en êtes ?» Dieu a posé cette question à Adam, « Où es-tu ?» Cet après-midi, je pose cette même question, « Où es-tu ? » Est-ce que tu es sur le chemin ou est-ce que tu tournes en rond ? Est-ce que toi, peut-être, qui a déjà pris la décision de suivre Dieu, est-ce que tu réalises que peut-être tu connaissais le chemin, mais tu n'as pas commencé à marcher dessus? Peut-être tu n'avais pas réalisé l'importance qu'il y a de marcher sur le chemin. Alors c'est pareil, tu peux te poser la question, au regard de ce qui a été partagé ce matin, cet après-midi, peut-être qu'aujourd'hui est une journée spéciale pour quelqu'un qui doit réfléchir et se dire, mais c'est vrai, ma vie, depuis que j'ai donné mon cœur au Seigneur, à quoi elle sert ? Quel témoignage je rends ?